À Papa Médard de prier et la sœur Louboula peut nous faire la lecture du texte de ce soir. À Romains chapitre 9, on va méditer les 13 premiers versets. Alors, Papa Médard, est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît?
Prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette journée. Seigneur Dieu, tu as été avec nous partout où nous étions. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu nous invites encore. Tu nous permets, tu nous donnes encore la grâce de nous réunir autour de toi, autour de ta parole. Nous te bénissons pour cela. C'est pour ça que nous voulons, Seigneur, de te remettre tout ce temps que nous allons passer ensemble. Mais Seigneur, nous savons que tu veux nous parler. Mais tu veux, Seigneur, de que nous soyons saints, que nous soyons sanctifiés. Seigneur, de la personne qui ne peut nous sanctifier que c'est toi. Nous venons auprès de toi, Seigneur, de te dire, Papa, nous avons péché contre toi. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Peut-être par ignorance ou par oubli, Seigneur. Donc, nous voulons reconnaître cet état d'âme. Pardonne chacun de nous, grand Dieu. Pardonne même nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être toute ta présence. Oui, merci Seigneur Dieu, parce que toi tu es le pardon, tu es miséricordieux. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci de laver chacun de nous dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Papa, merci. Et comme tu nous as pardonné, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu remplisses chacun de nous de ton Saint-Esprit. Ainsi, nous n'allons pas voir la personne qui va nous diriger. Nous n'allons pas voir la personne qui va intervenir. Nous allons voir toi, notre Dieu, qui parle à travers tes enfants, Seigneur Dieu, qui vont prendre parole. Merci encore une fois d'utiliser ton enfant, le pasteur José, Seigneur Dieu, du Canada, qui va nous diriger ce soir. Merci de l'aider à canaliser toutes les idées, Seigneur Dieu. Ah, ton esprit. Seigneur Dieu, merci pour le texte que nous allons lire. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas parler à chacun de nous. Seigneur Dieu, tu vas parler spécialement à chacun selon ce que tu connais. Grand Dieu, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble avec les bien-aimés. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te confier ce moment. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci, frère. Alors, pour ma part,
Amen.
nous allons suivre la lecture. Si vous avez votre Bible, c'est toujours bien de faire la lecture en même temps que la personne choisie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tendre l'oreille et bien écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Sœur Louboula, pourriez-vous nous faire la lecture?
Oui, merci, pasteur. Je lis dans la version Louis II. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Excusez-moi, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu est béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, Ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La parole de l'étude.
Merci, ma sœur, pour cette belle lecture.
Voilà.
Frères et sœurs, nous revenons à l'épître de Paul aux Romains. Nous avons parcouru déjà les 8 premiers chapitres dans lesquels, si vous vous souvenez encore, Paul exposait les grandes lignes des principales doctrines chrétiennes. Il avait commencé par nous montrer l'universalité du péché. Il nous a fait voir combien c'est important le salut offert par Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Il nous a parlé aussi entre autres de la doctrine de la justification, donc ce que la loi ne pouvait pas faire, la foi en Christ nous l'accorde. Et ainsi, il va en arriver à la justification de toutes les personnes qui ont cru, notamment lorsqu'il entame le chapitre 8 en disant qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ici, il y a juste quelques-unes des doctrines chrétiennes qu'il a présentées de manière théologique, de manière aussi succincte, du premier chapitre jusqu'au chapitre 8. Et là, dans le chapitre 9, il va aborder un sujet qui lui tient vraiment à cœur, c'est-à-dire le salut et l'endurcissement de son peuple, le peuple juif. Et c'est ce que nous abordons aujourd'hui dans le chapitre 9, 10 et 11. Et dans la suite, évidemment, le reste du livre sera consacré aux éléments d'ordre pratique, comment on peut vivre la foi de manière pratique au jour le jour. Pour aujourd'hui, dans les 13 premiers versets de ce chapitre 9, Paul va nous ramener un peu à un concept qu'on a déjà étudié dans d'autres circonstances, parce que il va même évoquer lui-même, à cause de l'amour qu'il éprouve, à cause de, du grand élan de cœur qu'il a pour le peuple juif, il va même se proposer, si cela a été possible, d'être séparé de Christ, d'être anathème. C'est assez grave ce qu'il dit, mais ça montre en tout cas la profondeur de son amour pour son peuple. Tout en sachant que ce n'est pas possible, parce qu'avant lui, Moïse l'avait fait, Dieu lui avait fait voir évidemment que cela ne peut pas en tout cas se faire, mais ça nous renseigne aujourd'hui jusqu'au point, jusqu'à quel point est-ce que nous pouvons nous aussi aimer les nôtres, les membres de nos familles, les membres de notre église, les membres du FIMES, nos compatriotes, les gens que Dieu a placé à nos côtés, au milieu de qui le Seigneur a voulu que nous naissions, jusqu'à quel point est-ce que nous les aimons. On va regarder aussi le concept qui est derrière la question de l'autonomie, comment est-ce que Dieu opère alors que les humains nous pensons être maîtres de nos destins. Jusqu'à quel point est-ce que nous pensons prendre les bonnes décisions tout en étant indépendant de Dieu. Le Seigneur montre ici que les deux enfants qui sont nés, ils décident déjà de qui va être quoi avant même que les enfants soient nés et qu'ils aient fait bien, le bien ou le mal. Il y a ici un ensemble de concepts sur lesquels nous pouvons tabler et partager ensemble ce que le Seigneur nous aura mis à cœur. Voilà pour l'introduction. Encore une fois, frères et sœurs, le désir de notre cœur, c'est que le plus grand nombre possible de frères et de sœurs participent, partagent. J'ai l'intime conviction que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit des choses. Pourrions-nous, dans la mesure du possible, échanger cela, partager avec d'autres, parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour son édification ou pour l'édification du plus grand nombre. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons partager la parole en ce moment. Nous avons deux questions, la question numéro 1 et la question numéro 7. De quoi, de qui est-ce que ce texte parle? Et puis ensuite, quelle vérité est-ce que Dieu nous rappelle-t-il? Partageons cela ensemble, essayons le plus possible de répondre aux questions, parce que c'est quand nous essayons d'y répondre que nous démontrons au fait qu'on est en train de faire une méditation. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Au verset 1, au fait, si nous regardons pour rappel tout simplement, nous nous étions arrêtés au chapitre 8 sur la certitude de l'amour de Dieu. Vous vous souvenez que Paul nous avait fait voir que quelle que soit la situation où nous pouvons nous trouver, il n'y a absolument rien. Excusez-moi, je vais mettre le rythme. Il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit la persécution, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril, l'épée, etc. Et il va même dire que nous avons cette intime conviction, cette certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, Dieu fait travailler les circonstances pour le bien de ceux et celles qu'il aime. Et c'est sur cette note que on s'était séparés avec l'épître aux Romains. Aujourd'hui, lorsqu'il commence au verset 1 en disant qu'il dit la vérité en Christ et qu'il ne ment point, et il fait appel à deux témoins qui attestent de la véracité de ce qu'il dit, sa conscience d'abord, et puis ensuite le Saint-Esprit. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui, par sa conscience, rend témoin au fait que Paul dit la vérité. En faisant appel à l'Esprit, Paul veut, au fait, c'est un peu comme quand le Seigneur, ne pouvant pas, par une autre personne plus importante, ne pouvait dire autre chose que par lui-même, il a souvent répété, en vérité, je vous l'ai dit. Mais Paul étant un humain limité, pour attester, pour nous convaincre de la vérité qu'il va annoncer après, il fait appel au Saint-Esprit qui atteste, qui confirme au fait la véracité de ce qu'il dit et de ce qu'il va développer plus tard. Lorsque quelqu'un fait appel à un témoin beaucoup plus important, nous pouvons voir les séries de ce qu'il va dire. Nous pouvons voir, nous pouvons croire à la véracité de ce qu'il va annoncer dans la suite. Et nous ne pouvons pas parler du verset 1 sans commencer déjà à voir Mais de quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Le verset 2, en fait, il s'agit de nous faire comprendre qu'il a une grande, une profonde tristesse dans son cœur. Il vit avec un chagrin continuel. Pourquoi? Parce que la majorité de son peuple n'a pas cru à ce que Dieu leur a offert. Et cela, son chagrin et sa tristesse sont si intenses dans la mesure où c'est son peuple qui est le dépositaire de toutes les alliances que Dieu a faites. Nous allons voir, nous verrons peut-être quelles sont les quelques-unes de ces alliances-là, mais déjà au verset 4, Paul va énumérer les dépôts que Dieu a placés auprès du peuple juif. Et parce qu'ils sont dépositaires de ces vérités fondamentales, parce ils sont le choix de l'élection de Dieu, et parce qu'ils ont rejeté ce que Dieu propose au détriment d'autres choses, Paul ressent alors de la tristesse profonde. Mais en même temps, il va nous montrer aujourd'hui ce que ce texte nous dit, la vérité que Dieu nous enseigne là, c'est que s'il y a eu, on peut être juif sans être nécessairement un fils d'Abraham, spirituellement parlant, se peut-il aussi qu'il y a des gens dans l'Église qui sont constamment présents dans l'Église, mais qui rejettent aussi le Seigneur. C'est une vérité qu'on doit explorer à la lumière de ce que Paul expose ici, parce que par le Saint-Esprit, il nous démontre que tous ceux qui sont descendants d'Abraham ne sont pas nécessairement fils d'Abraham. Ils ne sont pas le vrai Israël. Et pourtant, biologiquement, ils sont descendants d'Abraham, mais spirituellement, ils ne sont pas fils de la promesse. Se peut-il qu'aujourd'hui aussi, dans l'Église, nous sommes là, au fumès, nous méditons ensemble la parole, mais que quelqu'un, quelque part, rejette l'offre que Dieu nous présente. Peut-être que en intervenant les uns et les autres, nous éclairerons aussi sur cette possibilité. Je vais encore un peu reprendre c'est quoi les dépôts que Dieu a fait sur Israël qui rend ce peuple responsable devant le Seigneur s'il rejette l'offre que Dieu leur présente. Le verset 4, Paul va dire que son chagrin est si intense, c'est un chagrin continuel, parce que les Israélites, c'est à eux que Dieu a présenté l'adoption. Donc Dieu a fait d'eux, Dieu les a adoptés comme étant son peuple. Ça veut dire qu'ils sont bénéficiaires de la gloire de Dieu. Ils sont bénéficiaires des alliances que Dieu a nouées avec eux. C'est à eux que Dieu a donné sa loi, au point que Moïse pouvait dire au peuple au moment de partir, que regardez-vous, vous êtes vraiment un peuple saint, un peuple mis à part, parce qu'il n'y a pas un autre peuple sur cette terre qui ait des lois comme le vôtre et qui ait un Dieu comme le vôtre. Donc, c'est un peuple qui a eu des privilèges, un peuple qui a connu un service, un culte au Dieu Tout-Puissant, mais aussi un peuple qui a reçu des dieux des promesses. Vous vous souvenez, on vient de terminer une partie de deux chroniques où le Seigneur a dit en réponse à la prière du roi Salomon, Dieu lui a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce sont des promesses ineffables, des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et réclamer que Dieu nous visite, que Dieu nous exauce, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous rétablisse. Le rétablissement, c'est la guérison, c'est la restauration. Donc, on voit, comme Paul parle ici, au verset 4, que c'est vraiment un peuple à qui appartient les promesses de Dieu. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ce sont des personnes qui sont issues de ce peuple-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est le Christ lui-même. Paul va nous rappeler cela en disant, selon la chair, Christ est issu d'Israël. Ce Christ qui est lui-même Dieu béni éternellement, ce Christ qui est au-dessus de toute chose, il est issu d'Israël. Et le Seigneur Jésus lui-même le confirmait lorsque, vous vous souvenez, dans Jean 4, il parlait à la femme samaritaine. Il va dire que oui, effectivement, le salut vient des Juifs. Donc lui, la source de ce salut, il va se présenter à cette femme samaritaine comme étant effectivement juif, et il le proclame. Et c'est ce que Paul atteste aussi ici. Donc toutes ces choses que le peuple d'Israël a possédées, ces choses dont il est bénéficiaire, dépositaire, devront en réalité les amener à une inclusion totale dans le plan du salut offert par Dieu. Cependant, beaucoup l'ont rejeté. Au lieu de l'avoir par la foi, ils ont préféré l'avoir par la loi, c'est-à-dire par le fruit de leur force. Et étant donné, c'est dans cette même épître que Paul va nous faire voir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous sommes tous des pécheurs, les œuvres que nous faisons, même si elles peuvent être apparemment bonnes, ce sont des œuvres qui sont infectées de notre être, de notre personnalité. Or, si le péché habite en nous, ce que nous faisons est nécessairement entaché de mal, de péché, d'impureté, ce qui ne peut pas être acceptable devant le Seigneur. Par contre, par la foi, nous nous appuyons sur ce que Christ a fait. Lui, l'homme parfait, il a parfaitement obéi à Dieu et c'est pour nous qu'il l'a fait parce que lui-même, personnellement, n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'accomplir cela pour être fils de Dieu. Il l'était déjà, mais il l'a accompli, se substituant à nous, afin que ceux qui croiraient adoptent ou aient ou reçoivent de Dieu la sanctification, la justification et le pardon de leurs fautes. Voilà, frères et sœurs, Paul va dire, alors que le peuple juif est dépositaire de ses biens spirituels, en les rejetant, il va ouvrir aussi aux nations, aux gentils, afin que eux reçoivent ces choses par la foi et soient des fils et des filles adoptés dans la maison de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, je pense que c'est ce que beaucoup d'entre nous connaissent, peut-être que vous l'avez mémorisé aussi. Le texte dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui était offert à Israël, cette adoption, qui est listé ici comme étant un des premiers éléments listés au verset 4, Dieu aujourd'hui l'a aussi offert aux gentils, c'est-à-dire aux peuples qui ne sont pas d'origine juive, afin qu'eux aussi, s'ils croient, ils acceptent Christ par la foi, qu'ils croient en l'œuvre salvatrice accomplie par Christ, qu'eux aussi deviennent effectivement peuple de Dieu, peuple qui appartient à la maison de Dieu. Et ainsi, ils sont, comme Isaac, des enfants de la promesse. Hein? La promesse faite ici, Jean 1, 12 à 13, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une promesse d'adoption dans la maison de Dieu. Je vais laisser la place au frère Franck. Frère, vous avez la parole.
Oui, merci, docteur Joseph. Je vais compléter sur ce que, ajouter sur ce que vous venez de dire au verset 6 et le verset 7, où il est demandé. Avant d'abord que j'arrive là-bas, je voudrais juste revenir rapidement au verset 1 pour dire que quand Paul disait que je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience. Il prenait sa conscience à témoin, le Saint-Esprit, tout simplement parce que ses frères ne le croyaient plus, ne croyaient pas au message qu'il a apporté, le message que les autres, les non-croyants, les non-juifs, peuvent être aussi sauvés en Jésus-Christ. Parce que eux, ils croyaient que toutes les promesses que Dieu a faites, que à partir avec Abraham, que tous les descendants Abraham serait le père d'une grande nation. Mais dans leur conscience, ils croyaient qu'il n'y a que eux, juifs, parce qu'ils sont de la lignée d'Abraham, qui sont des vrais enfants des dieux. Mais ici, Paul veut nous montrer au verset 6 que si cela est ce que la parole de Dieu a failli. Or, la parole de Dieu ne peut pas faillir, ni les promesses de Dieu ne se sont pas encore, ne sont pas et s'accomplissent telles que Dieu l'a dit. Et vous venez déjà de le dire, par exemple, en Jean 1, 12, 13. Oui, cela montre que la parole n'a pas failli et que Dieu n'a pas dit seulement qu'il n'y a que les descendants d'Israël qui seront héritiers de la vie éternelle, qui seront les enfants de Dieu, les enfants de Dieu spirituellement. Mais et que le salut est ouvert à tout le monde à travers l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est que je voudrais dire que ceci m'interpelle ou m'enseigne, c'est que ce n'est pas que nous devons croire qu'en faisant partie d'une église ou d'une institution religieuse, ou parce que mon père ou mon pasteur est beaucoup plus spirituel, ta spiritualité ou la spiritualité de quoi ça de cette institution ou de l'Église va être aussi reportée sur moi par Dieu. Non, le seul moyen de devenir enfant de Dieu, c'est en acceptant Jésus-Christ, avoir une relation personnelle avec lui pour qu'on devienne participant à la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu, la famille chrétienne, la vraie famille chrétienne, oui, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait d'appartenir à une institution, ce n'est pas le fait d'être un fils ou fille d'un pasteur, ce n'est pas le fait d'avoir un pasteur qui est loin, qui est plus spirituel, ce n'est pas tout cela doit, et nous devons sortir de cela, de nos pensées, parce que c'est la même pensée que les Israélites avaient, mais nous devons, avaient plutôt, mais nous devons commencer à chercher à voir est-ce que j'ai une relation personnelle avec Christ. Parce que c'est cela qui, quand nous passerons devant le jugement, c'est cela qui nous défendrait, c'est lui, Christ, qui serait notre avocat, qui se tiendrait, c'est lui qui confirmera que celui-là est avec moi, afin que nous soyons part de cette famille, grande famille, et entrer dans et jouir de la vie éternelle que nous avons en lui par Dieu. Amen.
Merci, frère. Encore une fois, pour disons qu'on garde une idée très précise de tout ça, une promesse faite aujourd'hui à quiconque croit, donc Jean 1, versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Voilà comment on peut aujourd'hui accéder au salut par la foi en Jésus-Christ. Papa Thomas, vous avez la parole.
Oui, je voulais appuyer davantage cette vérité annoncée par le modérateur, appuyée par le pasteur Franck. Pour davantage renforcer cela, la Bible dit en Colossiens chapitre 3, le verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous et en tous. Donc, c'est important que nous comprenions que ce n'est pas parce que quelqu'un est juif qu'il est fils d'Abraham sur le texte. Le texte dit que ce n'est pas évident, puisque lui-même a dit, Dieu a dit à Abraham que l'année prochaine, quand je reviens, alors Sarah aura un fils, alors qu'il avait déjà un fils, né d'Abraham. Mm-hmm. Mais ce n'était pas un fils de promesse. La promesse, c'est dans le fils, le Christ, dans lequel nous avons donc la vie. Mais je suis encouragé que le juif, bien que Jésus soit venu d'abord à lui, il le refuse et ça nous donne l'opportunité. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Mais le texte d'aujourd'hui confirme que ce n'est pas du fait qu'on est né juif qu'on est automatiquement de la famille de Dieu. Le texte le dit clairement. Le texte dit clairement, on devient enfant de Dieu comme le modérateur l'a dit en Jean 1 à 12 et 13, que nous croyons à ce Seigneur, nous le recevons et nous devenons. Donc, c'est quelque chose, on n'est pas né avec, c'est pas physique, c'est pas un héritage physique, mais c'est un héritage d'adoption. En Christ, donc en Romains 8, nous avons reçu, donc 16, 17, nous avons reçu l'esprit d'adoption pour devenir adopté dans la famille où on est né. Mais c'est important quand même qu'on se rappelle que dans le Christ, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de circoncis, des incirconcis, des barbares, des scythes. Ce sont donc les particularités. Dieu n'a exception de personne. Il accepte celui qui reçoit le Christ comme source de salut. Merci.
Amen. Merci, frère. C'est vraiment bienvenu. Ça vient appuyer les idées déjà partagées. Nous apprécions énormément cela. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez cité un texte dans Colossiens. Dans notre texte de ce soir, les versets 6, 7 et 8 énoncent clairement cela. Parce que Paul, en substance, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous montrer que Abraham n'a pas eu qu'Isaac comme fils, comme seul fils. La différence entre Isaac et les autres enfants qu'il a eu. Donc au moment où il avait Isaac, il avait déjà eu Ismaël, et après Isaac, avec Keturah, il a eu d'autres enfants. Quelle est la différence entre Isaac et les autres enfants d'Abraham? Ce n'est pas parce que ce sont tous des enfants d'Abraham qu'ils sont israélites. Non.
Non.
Avec Isaac, le verset 9 le dit clairement, voici en effet la parole de la promesse. Donc Dieu a fait une promesse avant même que l'enfant soit conçu. Il est dit, Dieu dit, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc Dieu promet un fils et c'est ce fils-là qui est alors la postérité, comme le verset 7 dit, que en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc on voit la différence entre les enfants biologiques, les fils biologiques d'Abraham, la différence entre eux et Isaac. Et bien plus encore, parce qu'en Isaac, c'est la postérité d'Abraham qui compte devant Dieu. Les soucis de Paul, son inquiétude, son chagrin, c'est que c'est parmi, c'est dans la descendance même issue d'Isaac qu'il y en a qui ne croient pas. Ceux qui auraient pu être dans l'adoption, qui auraient pu être appelés fils et filles de Dieu, c'est eux qui ont rejeté le Seigneur. Donc ceci devient alors une mise en garde pour nous, et c'est important que ce soir, on revienne encore sur cette réalité. Frères et sœurs, ça vaut peut-être le coup de le redire, vous l'avez déjà entendu de deux frères qui ont dit un mot ce soir, nous ne naissons pas chrétiens. Bien souvent, vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Moi, je suis né chrétien, mais c'est impossible. » On ne peut pas naître chrétien, on devient chrétien. Amen. Selon le texte qui nous a été donné ce soir. Donc, on ne peut pas dire, tu ne peux pas te convaincre que parce que tu es né de parents chrétiens, alors tu es automatiquement chrétien. Non, ce n'est pas vrai. Donc, on devient chrétien par le fait de croire en Jésus, de le recevoir dans son cœur. Ainsi, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes humains, nous méditons la parole. Vous êtes peut-être membre dans une église, dans une communauté chrétienne, gloire au Seigneur. Vous êtes à l'église constamment, gloire au Seigneur. Mais c'est très important, comme Paul le disait toujours aux autres chrétiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Et si chacun de nous sait où est-ce qu'il en est, les uns et les autres, nous constituerons alors une communauté d'enfants de Dieu authentiquement nés de nouveau de la part du Seigneur. Je redonne encore la parole au frère Thomas.
Oui, merci. Le texte est vraiment formidable. Dieu a béni ce peuple d'Israël. Et Israël, au fait, c'est Jacob qui est devenu Israël. Donc la promesse est faite à Abraham. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob et Esaü. Mais Dieu, la Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Esaü. On peut encore le lire en Malachie chapitre 1, 2 à 3. Le pauvre Esaü, il était là, il essayait de chercher la viande pour la maison. Son père était même prêt à le bénir. Mais Dieu avait déjà dit ce verset 12-là. Et il avait déjà dit à Rebecca que le plus grand sera servi au plus jeune. Et puis le texte dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. On le voit là au verset 13. On le voit encore dans d'autres textes dans la Bible, par exemple Malachie 1, 2 à 3. Il est souverain. Il a choisi Jacob et il va changer son nom à Israël. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu de sa miséricorde envers nous, que nous soyons devenus enfants de Dieu, que nous sommes des élus et que nous avons le message d'annoncer cela à quiconque qui peut le recevoir afin qu'il soit aussi sauvé. Je trouve que nous servons un Dieu souverain. Je trouve que nous servons un Dieu plein de miséricorde, plein d'amour, mais il est complètement libre parce qu'on voit ici que il a choisi ainsi que le jeune plus jeune sauve le plus grand. Donc, certaines élévations que nous voyons dans la vie, acceptons-les comme telles. Parce que Dieu, il n'a exception de personne. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Merci.
Merci, frère. C'est le dernier mot que vous venez de prononcer. Nous le verrons plus tard. C'est un peu une discussion théologique. Le débat est lancé, il ne sera jamais fini. Jusqu'où est-ce que on voit l'œuvre, l'intervention de Dieu dans le processus de salut? Jusqu'où l'homme peut être aussi responsable? Parce que si Dieu, si c'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire, nous comprendrons, frères et sœurs, que vous et moi, si ce soir nous avons cette grâce de nous retrouver ensemble, de citer la parole et d'être croyants, d'être nés de nouveau, si vous comprenez qu'il y a en ce moment 7 milliards et demi d'êtres humains et que ceux et celles qui sont nés de nouveau, c'est vrai, nous ne voyons pas les cœurs, mais les statistiques nous montre peut-être que c'est un tiers de cette grande masse humaine qui a cru. Qu'est-ce qui a fait que toi tu as cru et que l'autre n'a pas cru? Qu'est-ce qui fait que même né, même père, même mère, toi tu as cru et ça fait un certain temps peut-être, ou bien même c'est aujourd'hui que tu as cru et que l'autre qui est à côté n'a pas cru. Le Seigneur nous fait grâce, c'est vrai. Il est souverain. C'est vrai. Et nous devons le reconnaître en tant que tel. Et cela, évidemment, nous poussera à aller encore devant lui pour lui implorer la grâce de voir aussi les autres se convertir. Nous voyons Paul dans le verset 2, et j'imagine que quand il dit qu'il a un chagrin continuel, c'est qu'il fait constamment des prières devant le Seigneur, comme on le verra par exemple au chapitre 10, verset 1, il va dire qu'il fait des prières à Dieu, qu'il a même, il présente des vœux au Seigneur, le vœu de son cœur et sa prière à Dieu, c'est que son peuple soit sauvé. Ça nous apprend ce soir que vous et moi, nous avons eu cette grâce. Le frère vient de nous parler de la souveraineté de Dieu. Au lieu de polémiquer ou de débattre sur ceux qui ne sont pas sauvés encore, je devrais plutôt dire merci à Dieu de ce que je suis sauvé. Voilà, nous y reviendrons encore dans la mesure possible. Je donne la parole au frère Franck.
Merci encore une fois pour la parole. Je voudrais juste relever et parler de quelque chose sur les enfants d'Abraham, comme on a parlé de à part Isaac, il y avait Ishmaël qui était venu même avant Isaac et puis les enfants de Keturah, mais je ne veux pas aller m'étaler sur les autres, je veux juste mentionner parler de Ishmaël. Ishmaël est l'image de nous tous ou tout chrétien qui cherche à trouver le salut par les moyens des efforts personnels, c'est-à-dire croyant qui croit que parce que je vais à l'église, parce que je fais des bonnes œuvres, parce que je fais ceci ou cela, c'est que je deviens réellement enfant de Dieu. Et non. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous voyons que il n'y a que l'enfant, le fils de la promesse, par lequel, qui est considéré comme la semence par laquelle la promesse de Dieu va s'accomplir. Et cet enfant de promesse, c'était Isaac. Et nous voyons, je peux dire, me pointer sur trois choses. D'abord, cet enfant a été promis. Il a été promis au moment où Abraham et Sarah ne s'attendaient le moins. Cet enfant est né miraculeusement par la grâce de Dieu. Et une autre chose, c'est que l'enfant de la promesse est né par la foi. C'est parce qu'Abraham et Sarah avaient la foi, c'est pourquoi cet enfant est né. Et ceci nous ramène exactement à ce que les Écritures disent, que nous sommes sauvés ou nous sommes nés de nouveau par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi en Christ. C'est que nous devenons enfants de Dieu, comme c'est juste pour revenir encore et répéter ce qui a été dit en Jean 1, 12, 13, c'est seulement quand nous croyons, quand nous avons la foi. Dieu maintenant, la grâce de Dieu, nous entrons par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous devenons adopter, comme le frère Thomas a dit, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère. Papa Thomas, vous avez la parole.
Bon, j'avais gardé la main levée. Ah, oui. Je m'excuse, la main était gardée levée.
Il n'y a pas de problème, frère. Merci beaucoup. Merci, frère Franck, pour ce nouvel ajout. Frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers l'atterrissage. J'aimerais peut-être dire un mot sur le verbe haïr, qui est conjugué ici à l'endroit de Ésaü. Dans ma méditation ce matin, je me suis arrêté un peu sur la question. Parce que pour un autre, ça peut être la question qui viendrait en tout cas en tête, et peut-être que c'est la question que Paul va aborder plus tard au chapitre 11. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il haï Ésaü? Le frère Thomas nous a déjà fait comprendre que, sur base des Écritures, bien sûr, que Dieu est souverain, et dans sa souveraineté, il a choisi l'un et il a haï l'autre. Dans d'autres versions, ce matin, dans ma version en anglais, on parlait plus du verbe rejeter plutôt que haïr. Parce que haïr ce mal, c'est un péché. Ça veut dire que si Dieu a haï Ésaü, est-ce que Dieu a mal fait? Est-ce que Dieu a commis un péché? Je pense que peut-être pour arriver à saisir la réalité qu'il y a là, nous sommes en train de parler des choses d'une portée tellement élevée à notre conception humaine que pour qu'on les comprenne, la Bible nous montre que Dieu est descendu vers nous. Ça veut dire qu'il a utilisé notre langage à nous.
Amen.
Vous vous souvenez que lorsque Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel, il a dit qu'il a vu des choses que l'œil humain n'a jamais vues, des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que ce sont des choses dont nous n'avons pas de mots dans notre langage à nous pour comprendre, pour les expliquer. S'il fallait qu'il explique, il ne les expliquerait pas de la bonne manière parce qu'il va utiliser des mots très limités pour expliquer une réalité qui n'est pas de notre monde. C'est un peu comme vouloir expliquer, demander à une taupe, ce petit animal qui vit sous terre, qui est presque aveugle, lui expliquer la beauté d'une fleur rose, c'est une réalité qui n'appartient pas à son langage. L'expliquer avec ses propres mots, ça peut être boiteux. Ainsi, dans les Écritures, nous avons parfois ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire des formes de la réalité humaine qu'on utilise pour comprendre les concepts de Dieu. On va nous parler, par exemple, de la droite de Dieu. Mais si Dieu est infini, sa droite, elle commence où et termine où? C'est un concept, c'est une réalité qui nous aide à comprendre avec des mots humains une réalité qui nous dépasse. Ailleurs, on va dire que Dieu va dire je me souviendrai de vos je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est une vérité, mais c'est une réalité qui appartient à notre monde. Mm-hmm. Parce que si Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu ne peut pas se souvenir. Il sait.
Il sait.
Donc, nous avons constamment dans les Écritures des réalités qui sont purement humaines, mais elles sont limitées parce qu'elles ne peuvent pas traduire exactement la réalité divine. Ainsi, nous avons dans les Écritures des mots comme Dieu a haï Ésaü, ben Dieu n'est, il n'y a pas de péché en lui. Dieu est amour. Donc, et surtout dans ce cas ici, le verset 11 dit « Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne fussent faits ni bien ni mal encore. » En fait, l'enfant n'était même pas coupable de quelque chose. Mais Dieu a choisi l'un et il a rejeté l'autre, et cela de manière souveraine. Et c'est ce que Paul va aborder plus tard au chapitre 11. Lorsqu'il parlera, il va dire évidemment qui tu dois pour discuter avec Dieu. Non, nous devons croire que Dieu est bon, il est fondamentalement bon, il nous aime. Et s'il prend une décision, sa décision est toujours la meilleure, elle est toujours la bonne. Et Dieu est souverain. Nous choisissons de nous soumettre à lui. Voilà, frères et sœurs, quelques idées. J'étais ici là pour nous aider à saisir un aspect ou l'autre de ce texte ce soir. Nous sommes en train d'atterrir. J'aimerais demander s'il y a... Papa Célé, est-ce qu'il y a des annonces ce soir? Papa Célé?
Oui, Papa José, je ne suis pas à la maison, je ne saurais rien dire. Merci.
Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, frères et sœurs, je voudrais... peut-être je vais faire... au besoin, je vais faire intervenir aussi quelqu'un d'autre pour dire... la sœur... La sœur Nathalie, est-ce que vous avez votre lecteur, votre pain du jour ce soir?
Non, je ne sais pas ça. Parce que...
Non, ok, merci. Papa Médard, est-ce que vous avez votre pain du jour?
Oui, j'ai ça.
Pourriez-vous nous lire le commentaire qui est fait pour ce soir dans Romains chapitre 9, 1 à 13?
Tous ne sont pas enfants de Dieu. Situation alarmante. En abordant la délicate question de la souveraineté de Dieu dans la dispensation de sa grâce salvatrice, l'apôtre Paul est profondément attristé par la situation de certains de ses frères juifs. Ils ont rejeté la justification par la foi au profit de la loi. Pourtant, celle-ci ne justifie pas, mais condamne, comme il a si bien démontré dans les chapitres précédents. Vérité fondamentale. Si les hommes sont tous des créatures de Dieu, tous ne sont pas enfants de Dieu. Cette vérité biblique vaut aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. L'apôtre en donne une double illustration tirée des descendants d'Abraham et d'Isaac qui n'ont pourtant pas tous les mêmes privilèges. On demande la distinction. Deux types de naissance, la naturelle ou charnelle et la spirituelle ou nouvelle. Seule la seconde confère le statut d'enfant de Dieu à ceux qui, par la foi, sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est le critère de choix souverainement établi par Dieu, conformément à la promesse faite à Abraham. Bon à savoir, si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui même, tu peux expérimenter la nouvelle naissance en recevant par la foi Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur pour y entrer et te faire jouir de sa présence glorieuse. Apocalypse 3:20. Amen.
Amen. Merci, Papa Médard. Ce commentaire, c'est celui qui a été fait par notre frère Ziki Zahiri de la Côte d'Ivoire. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir, je voudrais demander au pasteur José de prier le Seigneur pour clôturer.
Prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour le projet que tu avais pour l'humanité, commençant par le peuple d'Israël. Seigneur, merci parce que pour nous aujourd'hui, il nous suffit tout simplement d'avoir la foi en Jésus, de croire en sa mort et en sa résurrection, croire à sa deuxième venue, nous avons la vie éternelle. Par la foi seulement, et cela est donné à tout le monde, c'est-à-dire non seulement aux enfants d'Israël, mais aussi à nous autres qui ne faisons pas partie de ce peuple qui avait des promesses, des alliances et tout ce que tu as prévu pour lui. Merci Seigneur. Nous te prions, sommes déjà la nuit, nous allons bientôt dormir. Nous te demandons, notre Dieu, de nous accompagner dans notre sommeil. Que toi, notre Père, tu puisses nous garder pendant la nuit. Seigneur, il y en a qui ne peuvent pas bien dormir pendant la nuit à cause, par exemple, des souffrances physiques et des souffrances morales. Seigneur, te prions de pouvoir apaiser par ta grâce leurs souffrances. Béni sois-tu notre Dieu, merci de tout cœur. Que ta grâce, ton amour et ta communion soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.
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 Merci, Papa José, pour la prière. Demain, nous continuons la méditation dans le reste du chapitre jusqu'au verset 33. Nous aurons les mêmes questions que ce soir. Puisse le Seigneur nous faire grâce, nous garder, nous protéger et que nous nous retrouvions demain en santé. Bonne soirée.
Merci.